Nous allons tourner dans le livre de Daniel. Nous allons regarder aujourd'hui les versets 19 à 30. Comme la semaine dernière, je ne lirai pas le texte d'avant, je vais le lire au fur et à mesure. Le titre de ce message est « Au milieu de la fournaise ardente ». Est-ce que ça nous est arrivé de vivre des moments difficiles? On a peut-être l'impression qu'on ne s'en sortirait jamais. Hein? Eh bien, ils ont vécu, les amis de Daniel, des moments, comment dirais-je, plus que difficiles. À vue humaine, ils étaient parfaitement perdus. On a vu la semaine dernière comment Nebuchadnezzar, qui avait rendu gloire au Dieu d'Israël, l'avait reconnu comme le Dieu suprême. Reconnaître Dieu comme le Dieu suprême ne veut pas dire qu'il avait renoncé aux autres divinités. Il veut juste dire par là, c'est le Dieu le plus haut, le plus élevé. Hein? Mais on a vu comment est-ce qu'il est revenu rapidement, donc à sa, en fait, qu'il est toujours demeuré dans sa pensée païenne, à savoir que Dieu est au service de l'homme, et il a décidé d'ériger une statue colossale, probablement inspirée par le songe qu'il avait reçu. Et dans ce songe-là, on a vu que Babylone, Nebuchadnezzar, était représenté par la tête d'or. C'est ce qu'il a retenu. Maintenant, il n'a pas aimé nécessairement l'idée que son royaume allait passer. Alors il s'est dit, moi je vais ériger ma statue en or qui va symboliser mon royaume qui va durer à jamais. C'est le rêve de tous les despotes, de tous les dictateurs de ce monde. Et en fait, c'est la pensée même de l'Antéchrist, établir son royaume sur terre en dehors de Dieu lui-même. Ça a commencé avec Babel notamment. Et on a vu comment est-ce que donc il a fait ériger cela, il a fait rassembler tous les officiers, les principaux de son royaume. Ils sont venus partout, il y avait une gigantesque orchestre. Et l'idée était ceci, maintenant, quand les musiciens vont commencer à interpréter leur musique, vous allez devoir vous prosterner devant ma statue. Sous peine de mort. Quelle mort? Vous allez être jeté dans une fournaise. On a vu que probablement qu'il s'agissait des fournaises qui servaient à faire cuire les briques, quoi qu'il en soit, un endroit où il n'est pas nécessairement agréable à aller. Et alors que justement la foule devait être une foule immense dans cette vallée, n'est-ce pas, qui devait servir comme un grand amphithéâtre où la statue devait se voir de très très loin. On a vu qu'elle avait quelque chose comme, si je me souviens bien, 90 pieds de haut environ là, et tout en or. Elle devait, surtout lorsqu'il faisait soleil, ça devait se voir de très très loin. Alors Nebuchadnezzar a fait cela pour se glorifier. On ne sait pas si ça représentait une divinité elle-même ou le roi lui-même qui s'est déifié. Ça ne change pas grand-chose. Parce que on voit que à ce moment-là, on ne sait pas où était Daniel. Il devait être à l'extérieur, mais les trois amis de Daniel, les trois Hébreux fidèles à leur Dieu, ont refusé de s'incliner. Nebuchadnezzar ne l'a pas vu. Mais les sages autour de lui, les Chaldéens, extrêmement jaloux de ces hommes et de Daniel, parce que ceux-ci avaient été élevés au-dessus d'eux, des étrangers, pas juste des étrangers, mais surtout des gens qui n'adoraient qu'un seul, qui ne reconnaissaient pas leur science à eux, leur sorcellerie, leur astrologie, etc. Eh bien, ils se sont empressés d'aller voir le roi pour lui dire, est-ce que tu n'as pas donné un ordre express? Tout le monde devait se prosterner devant ta statue lorsque la musique débutait, mais il y a trois hommes, ces trois hommes que tu établis sur la province de Babylone. Ils ont refusé de le faire. Et là, on connaît Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Hein? Il est furieux. Il devait faire de la pression. Et il les fait venir. Bon, il leur offre une possibilité, peut-être que pour une raison quelconque, ils ont refusé, mais il leur offre une dernière possibilité parce que ce que le décret, c'était ceux qui vont refuser vont être immédiatement illico. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, là. Ça coûtait moins cher de prison aussi, je suppose. Et alors, il leur dit, mais alors il ça nous dit qu'il est enragé parce qu'il refuse. Hein, et il leur dit que, mais quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? On a souligné le fait que Daniel, au chapitre précédent, avait parlé de Dieu qui dépose et établit les rois comme il veut. Le verbe établir est le même qui est employé au chapitre 3 au début, à plusieurs reprises, où c'est constamment souligné. Hein? La statue qu'a élevé Nebuchadnezzar. C'est le verbe établir, c'est le même mot. Dieu renverse ou élève, établit ou élève les rois comme il veut. Maintenant, Nebuchadnezzar lui élève son Dieu comme il veut. Mais voilà, il y a trois hommes qui résistent. Ils sont tout seuls. Hein? Et qui refusent et ils lui répondent que quoi qu'il arrive, que, premièrement, leur Dieu est tout-puissant pour les délivrer, mais ils disent, mais même si ce n'est pas le cas, sache que n'adoreront point ta statue. Et là, le roi est écarlate. Écarlate. Hein? Et donc, il les condamne à mort sur le champ. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est orgueilleux, hein? Extrêmement orgueilleux. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, eux, refusent. Ce sont de vrais adorateurs de Dieu. Ils refusent catégoriquement de plier le genou devant l'idole. Ils refusent de souiller leur conscience. Je rappelle que Nebuchadnezzar n'a pas demandé à personne d'abandonner ses dieux, ou son dieu ou ses dieux, juste d'adorer le sien. Mais pour un véritable croyant, c'est une impossibilité. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Ils auraient pu dire, c'est un acte politique, c'est pas vraiment religieux. Ils auraient pu dire, on n'a pas tellement eu le temps de réfléchir, là, on réfléchira plus tard, on va plier les genoux, puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on fait avec cela. Ils auraient pu dire, si on meurt, qui va protéger notre nation? Il est évident que Dieu nous a placé un endroit pour influencer le gouvernement de Babylone. On a rationalisé les choses. C'est comme Moïse, hein, on l'a vu, qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et plutôt de porter l'opprobre du peuple de Dieu et l'opprobre de Christ. Il aurait pu dire, là où je suis, moi, reconnu comme la famille de Pharaon, je pourrais jouer de mon influence pour aider mon peuple. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors, ils ont refusé catégoriquement. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tout cela avec beaucoup de respect, non pas en révolte personnelle contre le roi, mais en obéissance à un roi plus grand que Nebuchadnezzar. Je rappelle ce roi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu immortel, c'est celui à qui tous les êtres humains, sans exception, doivent premièrement allégeance. Et si quiconque nous demande de transgresser un commandement de Dieu, nous pouvons respecter l'individu en qui a été placé en autorité, mais nous ne devons bien sûr de privilégier la volonté divine hein, sur la volonté de cet individu ou de l'État. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rend de tels individus, Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas, le témoignage suivant. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nos jeunes gens voyaient dans l'invisible. Il voyait la cité céleste. Il discernait la suprématie de Dieu, sa gloire, sa bonté envers eux, le Dieu de l'Alliance. Et bien sûr, c'est cette foi qui les a dirigés, qui les a instruits sur la décision à prendre. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, alors qu'il était emprisonné à Rome, a été déserté par un grand nombre de croyants autour de lui. Vous savez que c'est à l'époque de Néron, on avait extrêmement peur de cet homme, et de toute évidence, même les chrétiens hésitaient à aller le rencontrer, de s'associer avec lui. Il écrit à Timothée, son fidèle collaborateur, c'est dans la deuxième épître adressée à Timothée au chapitre 4, versets 16 à 18, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. L'image est forte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Le Seigneur, et l'apôtre, dans cette deuxième épître, sait que c'est terminé. Il sait que bientôt, il va offrir sa vie en sacrifice pour l'Évangile. Il sait qu'il va mourir. Regardons ce qu'il a écrit. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume éternel. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Le Seigneur va me délivrer de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il savait qu'il allait mourir. Mais pour lui, c'était la délivrance. Il savait que Dieu allait préserver son âme pour la vie éternelle et pour la résurrection d'entre les morts au retour de Christ. Voilà un homme qui voyait dans l'invisible. La réalité ultime. Les choses les plus importantes qui soient, ce qui lui a permis de mettre les priorités à leur place. Il n'a pas accepté de préserver sa vie ici-bas parce qu'il aurait perdu son âme. Mais au contraire, il était prêt à donner sa vie pour Christ afin que son âme vive à jamais. Premier point, les versets 19 à 23, donc, jeter lié, je pourrais ajouter même vivant, dans une fournaise extraordinairement chauffée. Les versets 19 à 23. Donc, après que nos trois amis aient répondu comme ils l'ont fait au roi, il nous est dit sur quoi? Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il l'était déjà, mais encore plus. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au fond de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Je réfléchissais, je me disais, ces trois hébreux ou juifs sont appelés de par leur nom babylonien. C'est intéressant. Ils n'ont pas perdu leur véritable identité. Même s'ils sont appelés de nom païen, ils sont demeurés dans leur cœur de véritables Israélites. Ils n'ont pas perdu leur véritable personnalité en Dieu. Nebuchadnezzar donc est animé d'une grande colère, au point de changer de visage à la vue de Shadrach, Meshach et Abednego. Il est si furieux, il est si enragé, qu'il donne l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus, une expression pour dire le plus possible. Donc à l'habitude, et il fait lier les trois récalcitrants par de robustes soldats. Probablement qu'il pensait que nos trois hommes allaient se débattre face à ce qui allait, à l'horreur qui était devant eux. Imaginons-nous, jetés dans une fournaise ardente. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. On a retrouvé certaines choses. Bon, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est certain que c'était chauffé à l'extrême. On aurait déjà retrouvé une espèce de four à briques là dont la température devait monter peut-être de 700-900 degrés Fahrenheit. Imaginons-nous, vous ouvrez le four chez vous à 500 degrés Fahrenheit, vous attendez que ce soit bien, bien, bien chaud, vous mettez la tête là-dedans. Faites pas ça, bien sûr. Dites pas, le pasteur nous a dit d'essayer cela. Et si vous le faites, ne prononcez pas mon nom, ne m'associez pas avec cela. Ça va être légèrement, gênant d'expliquer donc aux médecins, aux gens qui vont vous secourir, pourquoi vous avez fait cela. En fait, la chaleur est telle que ceux-là même, les soldats, qui étaient de robustes soldats, en s'avançant, meurent par le souffle, tellement il est chaud par les flammes. Et comme je disais, donc, absolument, on pense que c'était comme une espèce de grand creuset, peut-être des édifices. Quoi qu'il en soit, il y avait une porte qui était placée sur le côté, là, en bas, par où on alimentait justement avec du charbon habituellement, donc, cette fameuse fournaise-là. Et il y avait une ouverture sur le dessus, je n'en sais pas plus. Il est certain qu'il y avait une ouverture parce qu'ils ont jeté nos trois hommes dans la fournaise à partir de là. Et ça devait être quand même assez gros. C'est pour ça qu'on pense que c'était un four à briques, parce que pour y jeter trois hommes, et on verra plus tard qu'il y avait 4 individus, en fin de compte, dans la fournaise qui se promenaient dedans. Il y avait de la place pour se promener. Alors, humainement parlant, bien sûr, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont aucune chance d'échapper à une mort atroce. Combien de temps ça aurait duré, c'est le supplice, je ne sais pas, peut-être pas très très longtemps, mais imaginons-nous d'être jetés dans un tel endroit. J'ai travaillé en cuisine, je me suis brûlé à quelques reprises, ça fait mal. Et je m'imagine, là, vous ne pouvez pas échapper à cela, c'est le corps au complet. le corps au complet, les poumons, n'est-ce pas, qui brûlent juste par la chaleur elle-même, la peau qui se met à fondre, etc. Non, mais c'est la réalité dans laquelle ils ont été jetés. Certes que leur foi était forte, certes qu'ils ont été fortifiés par la grâce divine, mais la réalité elle-même était devant eux. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais l'apôtre Paul nous dit que les chrétiens sont aussi appelés à expérimenter la fournaise de l'adversité, pas nécessairement celle-là bien sûr, mais sous différentes formes, et ce en raison de leur profession de foi à Jésus-Christ. Mais qu'ils ne devraient pas être surpris de telles choses, regardant au contraire comme un sujet de gloire le fait de souffrir pour leur sauveur. 1 Pierre 4, 12 à 19, « Mes bien-aimés de Dieu, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici, « Forgez-vous une espèce de sourire artificiel. » La question n'est pas là. Juste, ne trouvez pas étrange. Alors, le mot « étrange » ici là, a le sens de « ne soyez pas étonné, ne soyez pas surpris, ne soyez pas sous le choc. Hein? Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire, de surprenant ou d'étranger à la vie chrétienne. » Ça n'en fait partie. Mes frères, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si Pierre nous dit, c'est normal, c'est la normalité. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, ne trouvez pas étrange, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une chose extraordinaire. Cela fait partie de la vie chrétienne. Le terme qu'il emploie, traduit par fournaise, purosis, nous parle d'un embrasement, d'un brasier, hein, notamment ce dont on se servait pour purifier le métal et de ses impuretés. Et il parle de l'épreuve, pérasma, c'est un mot qu'on a déjà vu quelques reprises, qui en fait nous parle d'un test. Qui nous permet de savoir si la personne possède la foi véritablement. Dieu, à travers cela, met à l'épreuve notre foi, non pas dans le sens pour savoir si, parce que Dieu connaît si j'ai la foi, mais il veut, à travers cela, révéler la véracité de celle-ci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, ça fait partie de la vie chrétienne. Bien sûr que ça prend différents visages, ça ne se manifeste pas toujours de la même manière. Il y a des degrés différents de tout cela, mais nous ne devrions pas être surpris s'il y a une forme d'adversité, si on fait face à une forme d'adversité, à des difficultés, hein, du fait que nous professons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre appelle donc ses frères et ses sœurs à se réjouir d'avoir présentement part aux souffrances de Christ. Car alors, au retour de celui-ci, nous allons participer à sa gloire, nous serons transportés de joie et d'allégresse. Il ajoute que si nous sommes outragés pour notre Sauveur, nous sommes heureux, car cela veut dire que l'Esprit de gloire repose sur nous. Si nous sommes outragés pour Christ, ça veut dire que l'Esprit de gloire repose sur nous. Le verbe « outrager » peut se traduire par faire des reproches, bien sûr, immérités, couvrir d'insultes, fustiger. Hein? Pourquoi est-ce que tu crois en ce Dieu-là? Pourquoi est-ce que tu as changé de religion? Pourquoi est-ce que tu délaisses certaines activités? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne te mêles plus avec nous sur certaines choses, etc., etc.? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais ceux et celles qui sont ainsi traités sont heureux, bien heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur eux. et ce qui les attend, c'est la gloire éternelle. Pour quelques moments de difficulté présente, ils ont devant eux un avenir glorieux pour l'éternité. Nos jeunes gens ici ont préféré souffrir quelques minutes, sachant qu'ils allaient, par la grâce de Dieu, échapper à une fournaise éternelle. Ils ont préféré suivre leur Dieu, être fidèles à leur Dieu, que d'opter pour la perdition. 1 Pierre 2,19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce. Avant notre conversion, nous n'avions pas l'amour de la vérité. Nous n'étions pas en recherche de la justice du royaume. Nous étions au contraire des ennemis du royaume. Et maintenant, Dieu a fait de nous des citoyens de ce royaume-là et nous appelle à souffrir pour ce royaume-là. C'est une grâce. C'est une grâce de défendre la véracité de ce royaume-là. Deuxième point, les versets 24 à 26, marchant librement dans la fournaise ardente. Donc, jetés liés dans une fournaise extraordinairement chauffée, mais maintenant marchant librement dans la fournaise ardente, les versets 24 à 26. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Soit que c'était l'ouverture par où on faisait entrer le combustible, soit qu'il y avait une autre ouverture, n'est-ce pas? Mais de toute évidence, le roi et ceux qui l'entouraient assistaient au spectacle. Ils voulaient voir les récalcitrants, les dissidents disparaître, ceux qui avaient, osé refuser d'obtempérer à sa volonté. Lui, Nebuchadnezzar, roi des rois, établi sur le monde, l'homme le plus puissant de la planète à cette époque-là. Maintenant, certainement que celui-ci s'attendait à entendre quelques hurlements et à contempler les cadavres de ceux qui avaient osé, comme je l'ai dit, résister à sa volonté. Il se réjouissait déjà de les voir dévorés par les flammes, et en se faisant de dire, « Voici ce qui va arriver à tous ceux qui vont oser me défier. » Mais là, il est saisi d'effroi. Il voit en effet au milieu de la fournaise, non pas trois, mais bien quatre hommes. Ceux-ci sont debout et sans lien. Ils se déplacent normalement au milieu d'un intense brasier comme si de rien n'était. Il est stupéfié, il est sous le choc, et même il questionne son entourage. C'est comme s'il disait que je suis en train d'halluciner. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ce à quoi ses conseillers répondirent par l'affirmative. Plus important est la description que fait le roi du quatrième individu. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Il s'agit d'un envoyé divin venu au secours de Shadrach, Meshach et Abednego, un ange de l'Éternel, qui nous rappelle que Dieu ne les a pas, justement, qui nous dit que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu était avec eux. Maintenant, qui était cet ange? On ne peut pas être affirmatif. Et bien sûr, nous avons dans l'Ancien Testament un ange particulier, l'ange de l'Éternel, dont Dieu dit qu'il a le pouvoir, qu'il avait le pouvoir même de retenir les péchés, etc. Donc Dieu dit que son nom était en lui, c'est-à-dire qu'il est Dieu, que cet ange était Dieu lui-même. C'est la deuxième personne de la Trinité avant son incarnation. Plusieurs croient, et je pense que c'est tout à fait logique, qu'en fait c'est cet ange qui était avec eux, au sein de la fournaise ardente. Dieu lui-même est venu. Quoi qu'il en soit, même si c'était un ange ordinaire, Dieu lui-même était là. C'est ça qu'il faut retenir. Et nous avons ici l'accomplissement des promesses divines, notamment celles que nous retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe qui a été lu tout à l'heure. C'est Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 3. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par mon nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ne crains pas, ne crains rien, car je te rachète. Christ nous a rachetés par son sang précieux. Dieu nous a rachetés par le sang de la croix. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Nébuchadnezzar ordonne à ce moment-là à Shadrach, Meshach et Abednego qu'il qualifie de serviteurs du Dieu suprême. Il leur demande donc de sortir de la fournaise, ce que ceux-ci font immédiatement. Comme l'a déclaré Stuart Olliott, ceux-ci, donc Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas été délivrés du feu, mais Dieu est venu en son Fils les délivrer dans le feu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'ils étaient dans cette fournaise, ils étaient au cœur même de la volonté de Dieu pour eux. Bien sûr que cette fournaise a été allumée par les hommes, et certainement que derrière cela, nous avons l'ennemi de nos âmes, mais ultimement, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. C'était le plan de Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise ardente afin de se glorifier à travers eux. Ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas extraordinaire ce qui vous arrive. On parle ici, bien sûr, d'être outragé pour le nom de Christ, mais c'est vrai aussi pour d'autres sortes de fournaises dans lesquelles nous pouvons être plongés selon la volonté de Dieu, des difficultés, parfois des moments de grande souffrance. Maintenant, si nos trois amis avaient cédé à l'ordre du roi païen, s'ils avaient fléchi le genou devant sa statue, ils n'auraient pas eu le privilège de voir la gloire et la grâce de Dieu se manifester comme elle s'est manifestée. Au Seigneur qui venait de donner l'ordre que l'on roule la pierre du sépulcre où reposait le corps de Lazare. On savait que Lazare, qui est décédé, que Jésus aimait beaucoup. Alors, Seigneur, qui est arrivé sur les lieux, ordonne qu'on roule la pierre, qui scellait le sépulcre. Marthe s'exclame rapidement, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » En d'autres mots, il a commencé à se décomposer, Seigneur. Que lui a répondu Jésus? « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dieu nous a donné la promesse de nous préserver au sein de toutes les difficultés. La manière dont il nous va nous préserver lui appartient. Shadrach, Meshach et Abednego ont bien dit, « Dieu a le pouvoir de nous délivrer de cette fournaise, du feu, mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas plus pour cela adorer ton idole. » En d'autres mots, ce qu'on l'a vu la semaine dernière, ce qu'ils ont dit, c'est que Dieu va nous délivrer de ta main d'une manière ou d'une autre. Que ce soit miraculeusement ou que ce soit par la mort, il va nous délivrer de toi, il va nous garder, il va nous préserver. Le chrétien ne peut que sortir vainqueur et triomphant de la fournaise ardente, et ce même si l'issue de celle-ci est la mort physique. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je sais qu'il y a différentes interprétations de ce texte-là, mais le principe demeure. Et je vis les âmes, c'est pas écrit des corps, c'est dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. L'idée est celle-ci. Ceux qui ont accepté de tout perdre pour Christ ont tout regagné, et plus encore. Ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête. Ils ont refusé de porter le chiffre de celle-ci, la marque de celle-ci sur leur front et sur leurs mains. Ceci en passant, le fameux 666, c'est un chiffre d'homme qui s'oppose au 777, le chiffre de la perfection divine. C'est l'idée que tout ce que le monde fait, tous ces systèmes, tout ce qu'il va élaborer, n'est-ce pas, ne peut que se terminer par une ruine parfaite. L'homme ne peut atteindre la perfection parce qu'il n'est pas Dieu. Puis en plus, il est pêcheur. Et de plus, le fait que l'idée que cela va être posé, en fait, imprégné sur le front, sur la main, nous parle de la pensée et du service. C'est l'idée que ceux qui vont ainsi ployer les genoux devant l'Antéchrist, et cela est vrai pour toutes les formes d'Antéchrist dans le monde présentement, c'est même vrai pour nous. Nous ne sommes pas, dans un régime antéchrist en tant que tel, on se comprend, mais je veux dire, c'est le monde quand même, n'est-ce pas? C'est l'idée que le diable fait à travers cela des gens, des hommes, ses esclaves, qui lui obéissent. Troisième point, parfaitement indemne, versets 8 à 15. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alors, sidérés par le spectacle qui s'offre à eux, tous les officiers de la cour qui sont présents s'approchent pour voir de plus près nos trois compagnons. Ceux-ci sont non seulement encore vivants, ça aurait déjà été un miracle, mais ce sera attendu peut-être quelques brûlures, manque de cheveux, la barbe, que les vêtements aient été touchés par cela, mais ils sont indemnes de la tête aux pieds. Les flammes ne les ont aucunement touchés, au point tel qu'on ne détecte même pas l'odeur du feu sur eux. Contrairement à ce qu'avait déclaré avec orgueil le monarque courroucé, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu suprême, le Dieu d'Israël, est venu à leur secours et a opéré en leur faveur un prodige, a honoré leur foi et leur fidélité à son alliance. Comme l'a souligné Charles Spurgeon, il y a cependant une chose qui n'a pas été épargnée par le brasier. Et cette chose, ce sont les liens avec lesquels on avait attaché, ligoté ces témoins de la vérité. C'est ce que Nebuchadnezzar avait déjà constaté. Je vois quatre hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Sans lien. Ils sont libres. Non seulement ils sont libres, mais ils devaient discuter des choses du royaume. Extraordinaire. Une communion avec Dieu merveilleuse au milieu de la fournaise. Notre Dieu se sert de la fournaise de l'adversité, de la souffrance que les hommes et Satan ont chauffée cette fois plus qu'à l'habitude pour nous libérer des solides cordes avec lesquelles ceux-ci nous ont attachés afin de nous empêcher de le suivre et de lui rendre témoignage. Tous ces liens qui nous viennent de ce monde, toute cette pensée opposée à Dieu, Dieu se sert de l'épreuve, de la fournaise ardente pour nous en libérer. Toutes ces valeurs, ces standards, ces standards selon le monde, selon notre société, selon notre culture déchue, sans quoi la chair se glorifie, ce sur quoi elle se repose, en nous faisant passer par le feu de l'épreuve, notre Dieu nous délivre de ces vaines manières de penser héritées de nos pères, afin justement que nous puissions nous attacher à lui, afin de nous délivrer de toutes ces affections naturelles, dont on ne fait pas encore toujours la différence avec celle du royaume, celle de l'esprit, afin que l'on puisse vivre justement dans une plus grande plénitude de ce Saint-Esprit, afin que nous puissions être séparés de ce monde, vivre de façon toujours plus séparée de ce monde et honorer notre Dieu. On ne s'en rend pas compte parce que, qu'on le veuille ou non, nous portons encore en nous toute une pensée selon notre société, n'est-ce pas, et qui nous lie encore en tant que chrétiens. Toutes sortes de craintes, de peur, qu'est-ce que les gens vont penser sur le standard de vie, etc., etc., alors que Dieu nous appelle à quelque chose de tellement différent. Je parlais tout à l'heure de la chaleur de la fournaise, j'ai parlé des degrés en Fahrenheit. Ça me faisait penser que plusieurs d'entre nous ici qui sont nés au Québec, n'est-ce pas, nous avons vécu la transition entre le système anglais et le système européen. Et ce qui fait qu'on pense avec les deux sans même s'en rendre compte. Le poids, moi, c'est toujours en livres. Puis la température dehors, etc., c'est Celsius, mais celle pour la cuisson, c'est en Fahrenheit habituellement. Mais on s'en rend pas compte, mais il y a un mélange. Vous savez, nous sommes nés donc selon ce monde, nous sommes nés dans la chair, c'est selon la chair, nous sommes nés de l'esprit, mais on mélange les deux encore. On mesure les choses parfois selon l'ancien système sans même nous en rendre compte. Mais notre Dieu, en nous faisant passer par l'épreuve, par la fournaise, fait disparaître ces liens de plus en plus. En d'autres mots, Dieu nous libère. L'apôtre Paul rend un très beau témoignage à cela, cette vérité-là, alors que justement il était emprisonné pour sa foi. Et il écrit aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, ceci, c'est Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. De toute évidence, beaucoup de croyants d'Église étaient découragés par l'emprisonnement de Paul. » Paul leur écrit ceci, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » En d'autres mots, Satan a voulu lier l'Évangile, Satan a voulu m'empêcher d'annoncer l'Évangile, mais sachez que l'Évangile est libre. Et que par cela, j'ai pu annoncer l'Évangile à un grand nombre de gens que je n'aurais jamais touché auparavant, et que beaucoup de frères sont encouragés par mon exemple et redoublent d'ardeur pour faire connaître le beau nom de Jésus. Quatrième point, Nebuchadnezzar reconnaît à nouveau le Dieu d'Israël, versets 28 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Ça aussi, ça a dû stupéfier tous les gens autour de lui. Rappelons-nous comment est-ce qu'il est tombé aux pieds de Daniel. Lui, c'est tout le monde, ce sont les gens autour de lui qui devaient se prosterner devant ce roi-là. Là, il était tombé aux pieds de Daniel. Bon, il s'est repris par après en disant, oh, un instant, c'est bien beau cette histoire-là de transition, que mon royaume va disparaître, etc. Wow. Mon royaume ne disparaîtra pas. Pour ce faire, il fait ériger sa grande statue, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est vraiment de faire changer la volonté de Dieu. Il croit vraiment que l'homme peut changer la volonté de Dieu. C'est le propre de l'homme déchu. Même chrétien, on pense qu'on va faire changer Dieu, qu'on va changer les plans de Dieu, au lieu de reconnaître sa parfaite souveraineté. Mais maintenant, ici encore, Nebuchadnezzar reconnaît que ces hommes ont bien fait de violer l'ordre du roi et ainsi de servir et d'adorer leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bon, on voit encore, bien sûr, le manque de sobriété de cet homme. Il passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, il voulait détruire les serviteurs de Dieu. Maintenant, il dit, si quelqu'un ose parler contre eux, ils vont entendre parler de moi. Et en fait, là aussi, bien sûr, le jugement est extrêmement fort, la sentence est extrêmement sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous voyons à nouveau Dieu agir pour la protection de son peuple. Je parle ici du déséquilibre émotionnel de Nebuchadnezzar, mais j'en profite pour dire, vous savez, il faut faire attention. Là, on parle de fournaise ardente, on parle de grande épreuve, mais faisons attention parce qu'il nous arrive parfois des choses bénignes qu'on prend pour... On a l'impression que le monde est en train d'être renversé autour de nous. Faisons attention, frères et sœurs, de mesurer les choses comme il se doit. Des choses parfois tellement bénignes, on a l'impression que c'est terminé, on crie au meurtre, etc., etc. C'est pas de ça dont il est question. Il faut prendre le temps de bien mesurer les choses, d'être sobre dans notre esprit. Il y a bien des années de cela, je travaillais dans un lavoto. À l'époque, j'étais étudiant en théologie C'était une espèce de vieux lavauto. Et ça fonctionnait, cette affaire-là. Il y avait une espèce de rouleau là, qui venait chercher la roue du côté du véhicule, la roue l'avant. Là, le véhicule devait se mettre sur le neutre. Et là, ce rouleau-là, qui était tiré là, par une espèce d'une chaîne, bien, tirait la voiture tout au long du lavauto. Jusqu'à la fin. Et à un moment donné, c'était une petite voiture, c'était pas très très gros, mais il y avait au moins quatre jeunes gens dans la voiture. Quand même, ça venait un peu mettre du poil sur le tout. Et lorsqu'ils sont arrivés vers la fin, pour sortir du lavauto, le fameux rouleau devait rentrer dans un clapet pour retourner en dessous de la terre et revenir. Et le clapet a levé et la roue était poignée là-dedans. Alors, il essayait de sortir, il n'était pas capable. Alors, j'ai dit au conducteur, ne touche à rien. Parce que moi, j'ai mis mon pied sur le clapet pour essayer de le descendre. Mais de toute évidence, comme ça nous arrive souvent, il n'a pas écouté les consignes. Alors, il a pesé sur l'accélérateur et il m'est passé sur le pied. J'avais des bottes de caoutchouc parce que c'est très humide là-dedans. Hein, c'est un lavauto, puis en plus. Mais c'était vraiment des bottes de caoutchouc. C'était pas des bottes de travail pour la construction. C'était juste du caoutchouc, rien d'autre, avec des gros bas de laine dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a fait mal. En fait, j'avais l'impression que mon pied était rendu gros de même. Ça faisait comme boum. Là, on sentait tous les battements du cœur, du sang qui passait. Là, j'ai l'impression que, littéralement, c'était vraiment, j'avais l'impression, boum, boum. Ça m'a pris à peu près une demi-heure à revenir. Je me promenais dans de la vauto, j'étais... Parce que lui, était parti, il avait payé, c'était terminé. Et là, j'étais persuadé que mes orteils étaient crabouillés, que les ongles se promenaient là-dedans, le sang, les os, tout le kit. Persuadé. J'osais même pas regarder. Premièrement, ça faisait trop mal. Je faisais juste me promener. Et puis, après un certain temps, je me suis dit, j'ai pas le choix, faut que je regarde. Il y avait pas beaucoup de clients, j'étais tranquille au moins. Je regarde absolument rien. Parfois, on est comme ça, hein, dans nos émotions. On en met plus qu'il en faut. Faisons attention. Ceci étant dit, c'est vrai même pour une véritable fournaise. Puisque nous venons de voir ici que Dieu nous garde au milieu du feu. Même lorsque la fournaise est chauffée de façon extraordinaire, ça demeure ultimement la fournaise de Dieu. C'est prévu dans son plan. Et les promesses du Seigneur, c'est qu'il va me garder. Maintenant, comme je l'ai déjà souligné, derrière la volonté despotique de Nebuchadnezzar, de soumettre donc les consciences à sa volonté, d'unifier son royaume sous l'égide d'un culte idolâtre, se cache le serpent ancien, le diable, qui vise la destruction du peuple de Dieu, l'anéantissement de la vérité dans le monde. Mais en agissant comme il l'a fait, en parlant de Dieu, bien sûr, en obligeant le roi de Babylone à fléchir les genoux devant lui et à reconnaître à nouveau sa suprématie, le Seigneur restreint la puissance de l'Antéchrist dans le monde et dans le royaume de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il va faire venir bientôt un plus grand nombre de Juifs, selon son plan parfait, et qu'il a fait la promesse de les préserver, parce que le Messie doit paraître. Et donc, il lie littéralement Satan de cette manière-là pour l'empêcher donc d'accomplir ses funestes desseins. De même, dans le temps présent, malgré la malice des hommes et du diable, Dieu préserve son Église. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas par la fournaise. Ça ne veut pas dire qu'elle peut être parfois même très persécutée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas même disparaître de certaines régions du monde. Mais le diable ne peut pas l'anéantir. Et surtout, il ne peut anéantir les âmes des élus. Nous avons la vie éternelle. Et quelle que soit l'issue d'une épreuve, nous avons l'assurance, soit que nous restons ici, soit que nous quittions ce monde, nous avons l'assurance de demeurer avec notre Dieu. Mieux que cela, si nous quittons ce monde, nous serons réellement avec notre Dieu. Dans le temps présent, Dieu préserve son peuple, et l'apôtre Paul nous dit justement que Dieu restreint même la venue de ce dernier et de plus grand des Nebuchadnezzar qui n'aura jamais existé, à savoir celui qu'il appelle l'homme de péché, l'apôtre Jean, l'Antéchrist. Alors l'Église va passer par la plus grande fournaise qui soit. Faisons attention avec de telles expressions parce que de nombreux croyants ont passé par de véritables fournaises ardentes. Certains le vivent encore aujourd'hui. Mais bien sûr, le moment vient où même le monde aura l'impression d'avoir anéanti les saints de ce monde. Mais alors que l'Église sera jetée dans une telle fournaise, Christ sera avec elle. Il va venir la délivrer. Et il va venir la glorifier et se glorifier à travers ses saints. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage à celle-ci. Alors viendra la fin. La fin ne viendra pas aussi tant et aussi longtemps que le Seigneur n'aura pas accompli son plan, à savoir que l'Évangile doit être annoncé à toutes les nations, tant et aussi longtemps que l'Église ne sera pas complétée. Alors viendra la fin. Mais pour l'instant, nous avons une promesse de préservation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, de difficultés, mais il y a une promesse de préservation. Et lors même qu'à la toute fin, que l'Église aura l'impression que toutes les puissances de l'enfer vont se déchaîner, Christ sera avec son Église au sein de la fournaise et va la délivrer. Les saints de Dieu ne peuvent rien perdre. Absolument rien. Rien ne peut nous toucher en tant que tel, puisque nous sommes les héritiers du royaume. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous laisser émerveiller par ta puissance glorieuse, par ta sainteté, par ton amour, par ta fidélité, par ta sagesse, Seigneur, qui surpasse la nôtre de façon infinie. Pour ce plan parfait que tu as prévu d'avance, Seigneur, pour les tiens, afin de te glorifier en eux. De ce que tu te ris du méchant, notre Dieu. Nous voulons te bénir parce que ce que nous avons vu ce matin, c'est que tu nous donnes l'assurance d'être avec nous dans toutes nos difficultés. Quelle que soit, Seigneur, la teneur de celle-ci. Et encore plus, bien sûr, si même nous avons l'impression d'être jetés dans une fournaise qui a été chauffée de façon extraordinaire. Bien sûr, pour cela, notre Père, nous avons besoin de grandir dans notre foi. Nous avons besoin de regarder à toi, afin que nos cœurs reçoivent la grâce et soient calmés. Notre Dieu, toi qui nous connais ce matin, nous te prions de nous fortifier. Peut-être que certains d'entre nous passent par des moments plus difficiles que d'autres. Nous te prions, Seigneur, de venir à leur secours. Sachant que la fournaise ne durera pas toujours non plus, Seigneur, il y a une issue, il y a une délivrance. À cet effet, nous voulons te prier pour le pasteur Jean-Pierre Cloutier, afin que tu viennes à son secours, que ta grâce puisse être déversée dans son cœur, qu'il puisse expérimenter au milieu des difficultés présentes, Seigneur, cette paix qui surpasse toute connaissance. Qu'il puisse, Seigneur, expérimenter comme jamais ta grâce dans sa vie. Nous prions pour notre frère Cédric aussi dans sa situation. Nous n'en connaissons pas l'issue, mais nous savons que tu as un plan parfait. Seigneur, déploie ta puissance. Viens au secours de notre frère, notre Dieu, notre Père. Tu vois tout autour de nous des ouvriers aussi, Seigneur, qui vivent des moments, Seigneur, de grandes difficultés, de souffrances. Nous te prions de les assister. Des églises, Seigneur, qui sont traversées par des crises. Notre Père, nous te prions de ramener la paix. Selon ton plan parfait, de préserver les tiens, ceux qui t'appartiennent. Nous te remercions pour l'Église d'Actonville, notre Dieu. Te prions pour ce jeune homme, Dominique, dont nous avons la certitude que tu l'as appelé, afin, Seigneur, qu'il puisse aller de l'avant. Seigneur, certainement que nous avons là, Seigneur, un ouvrier que tu as toi-même qualifié et que tu es en train de qualifier. Nous te prions pour une plus grande sagesse. Nous te prions pour, Seigneur, que sa foi puisse croître, notre Dieu, afin qu'il sache comment conduire comme il se doit le troupeau sur lequel tu l'as établi. Nous te prions pour le troupeau aussi qui a une responsabilité, afin qu'il puisse discerner ceux que tu appelles, afin qu'il puisse discerner, notre Dieu, ton œuvre dans ces hommes et reconnaître, Seigneur, ceux qui sont appelés à le diriger, notre Père. Notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Encore une fois, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre ou que nous vivrons, nous te prions de nous donner la force, la grâce, Seigneur, de demeurer ferme. Dans la paix, dans le respect des autres. Nous te prions, Seigneur, qu'à travers les épreuves que nous puissions vivre, que nous puissions demeurer fidèles afin que non seulement nous soyons préservés, mais notre Dieu, que les liens, que le monde avec lequel le monde nous a attachés, eux, soient consumés. Cette crainte des hommes, Seigneur, qui nous lie tant si souvent, cette recherche de standing, de reconnaissance, de réussite selon le monde, donne-nous d'être délivrés de cela. Délivrés, Seigneur, de la crainte du regard désapprobateur des autres. Car, Seigneur, ce qui compte le plus, c'est ton regard à toi. Or, ce regard nous est favorable, puisque c'est toi qui nous as choisis en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce monde, Seigneur, voudrait qu'on s'occupe plus justement de lui que de toi. Il veut nous empêcher d'annoncer ta parole. Il veut nous empêcher de vivre pour toi. Parfois de façon extrêmement subtile. On le voit notamment avec le dimanche. Lorsqu'on organise toutes sortes d'activités, Seigneur, à l'heure du culte, donne-nous de demeurer fermes. Dieu en premier. Donne-nous de ne pas fléchir le genou devant une telle idole. Lors même qu'on nous reproche de manquer d'amour, de sensibilité. Car en fait, c'est eux qui en manquent. Puisque, Seigneur, ils profanent ton Saint-Jour, ils te manquent de respect. Donne-nous de ne pas réagir à cela, Seigneur, selon la chair non plus. De ne pas regarder ces individus, Seigneur, comme si nous leur étions supérieurs, mais au contraire, donne-nous beaucoup d'amour et de grâce. Mais ce véritable amour et cette grâce, Seigneur, ne doivent pas nous conduire à mettre de côté ta volonté, tes exigences. Donne-nous, Seigneur, à travers ce que nous vivons, de contempler toujours plus, Seigneur, la justice du royaume et d'aspirer à celle-ci. Donne-nous, Seigneur, à travers ces difficultés, Seigneur, d'expérimenter la liberté pour laquelle Christ nous a rachetés. Car en fait, notre Dieu, il a été lié par les hommes et lui a expérimenté la plus grande fournaise qui soit, celle de la damnation du péché, afin de nous en délivrer pour l'éternité. Afin que désormais notre Dieu, les fournaises que nous pouvons expérimenter servent à notre bien, servent, Seigneur, à notre édification, servent à notre consolidation. Et que ces fournaises, en fait, conduisent à une plus grande espérance du royaume. Notre Dieu, notre Père, sois béni ce matin. Sois glorifié pour la promesse que tu nous as faite, que lors même que nous devions marcher dans le feu, que, Seigneur, nous ne périrons point, qu'au contraire, nous sortirons vainqueurs, que lors même que nous devions donner notre vie pour toi, nous allons gagner le ciel, l'éternité, lors même que nous sommes méprisés ici-bas, rejetés, et lors même qu'il y a des conséquences sur notre standing de vie, notre style de vie, notre Dieu, nous savons que, Seigneur, la richesse qui nous attend est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et bien sûr, la plus grande richesse qui soit, c'est le fait d'être transformé à l'image de ton Fils, notre Père. C'est le fait de partager sa vertu personnelle. Et tout cela a été rendu possible par le sang de la croix. Parce qu'il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons justice en lui devant ta face. Notre Dieu soit béni ce matin, en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.